Cap Sport, la rediff.
Objectif Dakar 2019, c'est le projet sur lequel travaille Nicolas Monin. Ce pilote moto neuchâtelois a déjà participé à une reprise à ce mythique rallye raid dans les grandes plaines de sable sud-américaine. Il met la vitesse supérieure et entend monter une structure d'assistance complète pour deux pilotes en vue de l'édition 2019. Nicolas Monin est notre invité en première partie d'émission. Et en seconde partie, nous évoquerons la carrière de Clint Capella, seul basketteur suisse avec Thabo Sefolosha à évoluer dans le prestigieux championnat de la NBA, la ligue professionnelle nord-américaine. Et le Genevois connaît une saison exceptionnelle. Décryptage avec notre spécialiste maison et ancien joueur de Ligue nationale, Yves Londoneau. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport, le rendez-vous sportif de la fin de semaine. Et c'est vous, Marcel Neuenfinder, que c'est avec vous que l'on va développer ces deux thèmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes deux roues, oui, mais plutôt sans moteur, vous. Hein. Mais le Dakar s'est réservé, on l'a dit, aux motos, aux voitures et même aux camions. Et c'est un événement qui fascine, un événement hors norme et dont le déroulement peut parfois réserver des surprises.
Oui, c'est en clair encore une aventure, une vraie aventure sportive, comme il en existe pas forcément encore beaucoup, surtout peut-être dans les sports motorisés, même les rallyes traditionnels ne laissent pas ou plus la place à l'improvisation. L'aventure, c'est l'inconnu et le Dakar, c'est encore ça, même si les grands pilotes disposent d'un encadrement très professionnel. Mais on ne sait pas toujours ce qui vous attend derrière la prochaine dune ou le prochain virage. Les conditions météo, elles aussi, peuvent jouer des tours aux concurrents. Du moins, c'est l'image qu'on en a, l'image qu'on a du Dakar. Nicolas Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cette image du Dakar, celle qu'on se fait, cet aspect d'aventure, elle est bien réelle, c'est cela?
Oui, elle est totalement réelle. C'est une aventure sur deux semaines. C'est des paysages, des géographies différentes, des altitudes différentes entre le zéro du niveau de la mer jusqu'à 5000 mètres d'altitude. On rencontre de tout.
Parce qu'en Amérique du Sud, il faut le savoir, il y a des cols qui passent quasi à 5000 mètres d'altitude.
Exactement, oui. Quand j'ai participé en 2016, en fait, je me suis fait arrêter sur la cinquième étape à 4600 mètres. Donc, c'est le niveau de la pointe du four ici en Suisse, donc le niveau le plus élevé.
Où là, il n'y a pas de neige.
Où il y a... on peut trouver de la neige à ces altitudes. Hein. C'est des périodes, en plus de ça, en janvier, en Amérique du Sud, où la météo n'est pas forcément très stable.
Alors, le Dakar, c'est l'aventure. C'est ce qui en fait son charme pour vous?
Oui, alors, totalement. Juste pour l'anecdote, sur le Morocco Desert Challenge, la dernière course que j'ai pratiquée, j'ai rencontré une personne qui a fait une multitude de Dakar, les premiers, etc. Et puis, il nous raconte des anecdotes juste faramineuses et juste belles à entendre.
Alors, c'est ce qui fait l'aventure, c'est ce qui fait aussi la difficulté. La difficulté, c'est l'aventure.
La difficulté fait l'aventure, oui, dans un certain sens. C'est des aventures humaines, des partages. Et puis, en fait, on se retrouve des fois isolé dans des difficultés. Au milieu des sables, par exemple, principalement au milieu des sables, c'est là où il y a des fois plus de difficultés, oui.
Parce qu'on doit le dire, Nicolas Monin, vous avez déjà participé une fois à ce Dakar. Quels souvenirs vous en conservez?
C'est un peu un mélange dans un certain sens, parce que c'est déjà une belle aventure en fait de participer, d'y être, d'y mettre un pied, de traverser déjà des étapes. Et puis en quelque sorte, il n'y a qu'un objectif, c'est d'être sur la ligne d'arrivée, surtout pour un amateur comme moi. Et puis là, je ne l'ai pas vu cette ligne d'arrivée, donc je suis un peu mitigé en fait. Mais c'est déjà une belle expérience, et puis en 2019, je sais où c'est que je mets les pieds exactement.
Comment se fait-il que vous n'étiez pas arrivé? Qu'est-ce qui s'était passé?
J'ai vécu un gros crash dans la quatrième étape, à plus de 100 km/h. Je me suis fait enfermer dans la poussière. Je pensais dans un niveau de sécurité, au niveau pilotage, qui était bonne. Et puis, en fait, c'était pas du tout le cas. Je me suis retrouvé dans une situation de danger. Dès que la poussière a disparu, le problème, c'est que la piste avait disparu. Donc, à 100 km/h, quand vous partez dans les décors...
Vous partez de l'écor, quoi, c'est le cas de la vie.
Ouais, ouais. Et puis que vous êtes très content quand vous commencez à vous relever, même si là j'ai senti tout de suite que ça allait pas terrible.
Alors le Dakar, c'est 13 étapes, 9000 mètres à parcourir avec des étapes qui peuvent parfois dépasser les 1000 km ou dépasser les 500, 600 km.
Alors 9000 km, effectivement, c'est très très long. C'est des étapes en quelque sorte de 700 km de moyenne sur les 13 étapes, mais les étapes peuvent faire jusqu'à 1000 km. Donc avec pas mal de liaisons, pas forcément la partie la plus plaisante, quoique on rencontre beaucoup de public aussi dans les parties liaisons. Et puis après dans les spéciales, bien sûr, des spéciales lourdes de 500 à 600 km suivant comment.
Nicolas Monin, alors on l'a dit en introduction, vous avez décidé de prendre part au Dakar 2019, mais pas dans n'importe quelles conditions. Vous travaillez actuellement sur un projet concret de team, soit une structure logistique et d'encadrement solide. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus à ce propos ?
Oui, alors je suis parti sur un projet qui est diamétralement différent, même si l'objectif est dans un sens le même, de joindre l'arrivée du Dakar. En 2016, je me suis vraiment démerdé tout seul. J'ai voulu faire tout seul, j'ai pas voulu demander trop d'aide.
Le terme démerdé, il est réellement approprié. Hein.
Oui, disons que l'aventure Dakar, en fait, elle démarre dès que vous décidez d'aller au Dakar. Donc la décision, elle se prend une année et demie avant. Et puis là, tout de suite, les difficultés commencent. Et puis c'est effectivement de la démerde. Il faut être aussi pro en fait dans ses approches. Il faut être performant. Et il faut pas perdre de temps. C'est assez compliqué. Donc 2019, le projet est diamétralement différent dans le sens que j'ai plus envie de partager, de faire bénéficier aussi de mon expérience. D'avoir une équipe sur place, de faire un team suisse, d'où le terme de team suisse Dakar, et puis de partager ça avec un deuxième pilote. Il y aura même aussi des journalistes qui sont intégrés dans le team pour avoir l'aspect produit, en fait, les retours qu'on peut donner au niveau des partenaires, vu que maintenant, le gros travail, il est à ce niveau-là, donc à la recherche au niveau des finances. Et puis là, il faut être malin, il faut pouvoir proposer des choses.
Précisément, c'est un gros budget. Quel est le montant d'une telle opération ? Aïe, grimace !
Je ne sais pas si j'ose le dire comme ça au tout public. Non, c'est un budget brut, on va dire brut, parce qu'il faut bien penser qu'il y a du matériel. Puis le matériel peut en fait se financer justement par rapport à certains partenaires, par exemple les pneus ou les véhicules d'assistance. Mais le budget brut est de l'ordre du demi-million.
500 000 francs, c'est ce que j'allais dire, hein. Ça me paraît tout à fait réaliste, mais faut-il encore trouver ce financement ? Est-ce que vous êtes en train de le trouver ?
À nouveau une grimace. Non, en fait, on est, si on veut, sur le... J'ai un projet qui est très qualitatif, qui est vraiment très très intéressant. On l'a lancé assez tard. On savait qu'on avait un gros challenge, c'était de trouver des finances assez rapidement. Et puis on a produit tout ce qu'il fallait produire pour aller chercher les partenaires. Donc là maintenant on est en pleine recherche, donc on n'a pas encore vraiment de résultats probants. Et puis il va falloir déjà faire un bilan fin juin, vu que les inscriptions pilotes moto, je précise, va de 15 mai au 15 juillet.
Voilà, elles s'ouvrent mardi, hein, ces inscriptions.
Exactement.
Pour la petite histoire. Soit dit en passant, cette opération, vous aimeriez qu'elle soit durable et qu'elle ne soit pas seulement réservée à l'édition 2019. C'est aussi un de vos souhaits.
Oui, justement, dans l'idée de partager mon expérience, donc le Dakar 2019 serait mon 8e rallye. Donc c'est quelque chose où, voilà, je peux faire profiter des gens, voire même d'avoir quelque chose d'un peu plus pérenne en Suisse, parce que c'est vrai que sur le rallye raid, en fait, il y a pas de structure, donc il y a rien quoi, en fait. Donc de créer quelque chose et puis de le rendre pérenne, c'est une idée.
Nicolas Monin, vous êtes âgé de 49 ans, vous êtes domicilié au Val-de-Ruz, accessoirement ingénieur civil au service de la ville de La Chaux-de-Fonds. Pour le reste, on ne vous connaît pas beaucoup. Et justement, journaliste spécialisé des sports motorisés, Jean-Claude Schertenleib nous en dit un peu plus sur vous. Il explique surtout comment s'est fait la rencontre entre vous deux. C'est au micro de Noémie.
Ben, un petit peu par hasard, enfin pas par hasard, mais par passion, je dirais, parce que chaque année, à la même période, je regarde un petit peu qui va participer au Dakar, et c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, puis j'ai vu qu'il y avait un Nicolas Monin qui était au départ, puis je l'ai cherché, puis j'ai découvert qu'il habitait tout près de chez moi, au Val-de-Ruz.
Et vous le connaissez assez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le personnage?
C'est quelqu'un qui est très persuasif. Hein. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en ce qu'il fait. C'est un très grand professionnel dans sa vie professionnelle, à la ville de La Chaux-de-Fonds. Et là, j'ai découvert par sa passion, comme il a voulu monter ses opérations, son premier Dakar et le projet actuel. Vraiment, il est très, très persuasif. Et puis, il adore soigner les détails. Ça peut paraître un petit peu étonnant pour quelqu'un qui va partir faire 4000 km dans les dunes. Mais lui, chaque détail compte.
Justement, sa passion pour la moto, vous savez d'où elle vient?
Ben, je crois qu'elle vient depuis tout petit. Hein. Quand on s'appelle Monin, on a un nom jurassien. On sait qu'on a une grande culture de la moto, donc Jura avec trial, enduro, etc. Ce qui est assez intéressant et rigolo avec lui, c'est qu'avant de faire de la compétition moto, il a fait du sumo. Il était sumotori, il a participé à un championnat du monde à Tokyo notamment.
Et sa motivation pour le Dakar, celle-là, vous savez d'où elle vient?
Ben, le Dakar, ça fait rêver tous les gens qui font du terrain, qui font du rallye raid. C'est l'épreuve par excellence. Et puis quand je disais qu'on a des rêves communs, moi j'ai rêvé d'y participer depuis très très longtemps aussi. J'ai eu l'occasion deux fois d'aller suivre une partie du Dakar pour mon métier. Et puis là, peut-être qu'avec un grand projet, on y sera complètement.
Vous avez quelques anecdotes le concernant que vous pouvez partager avec nous?
Oh, des anecdotes, il y en aurait beaucoup à raconter. Non, mais une fois encore, c'est le plaisir qu'il a à partager. Et ça c'est très très important dans un projet comme celui dans lequel il s'est lancé. Or, des anecdotes, non, pas vraiment, si ce n'est qu'il ait ce goût toujours d'être très précis, tout très très clean. On s'est amusé avec un confrère de monter 2-3 vidéos cette année, notamment sur des petites courses d'entraînement, et chaque fois il tenait à revoir les images avant qu'il publie sur les réseaux sociaux.
Et justement, ben, vous parliez de ce projet Objectif Dakar 2019 qui apparemment vous tient aussi beaucoup à cœur. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelques petits mots pour l'encourager peut-être?
Eh bien, continue ainsi, continue avec ta passion, avec tes dons de persuasion, parce que c'est une immense opération. Pour lui, en tant que pilote manager, bien sûr, il vient de terminer brillamment une course au Maroc, mais surtout c'est tout le montage financier de l'opération, parce que c'est des très très gros chiffres. Et là, il faut beaucoup beaucoup travailler, mais il aime ça, et puis on va réussir.
Nicolas Monin, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport aux propos de Jean-Claude Schertenleib?
Je voulais juste le remercier par rapport au portrait qui brosse. Merci Jean-Claude. Pas grand-chose. Disons, c'est vrai que c'est dans les détails. J'aime travailler dans la qualité, faire des choses de qualité. Par rapport aux gens qui vont investir dans ce projet, il faut qu'il y ait de la qualité et puis il faut une qualité de rendu. Donc c'est important.
Travailler dans la qualité, dans la précision, pour aborder justement une aventure comme le Dakar, où après coup, peut-être l'improvisation nécessaire, on aborde une compétition comme celle-là, un rallye raid, de manière peut-être plus sereine que vous ne l'avez fait la première fois.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que d'avoir une meilleure préparation, de pouvoir bien séparer les choses, pour pas s'empêtrer le pied dans le tapis, parce que c'est vite arrivé. Donc être fin prêt mentalement, physiquement, la préparation au niveau du pilotage, au niveau de la navigation, il y a beaucoup de paramètres.
Et pour terminer avec Dakar, ne faut-il pas avoir aussi la tête dure, parce que physiquement c'est très dur?
Physiquement, c'est très dur, c'est très compliqué. Donc, effectivement, il faut aussi avoir le mental. Voilà. Donc, j'espère que je l'ai.
Le Dakar, en Amérique du Sud, c'est tout aussi fou qu'il ne l'était en Afrique à l'époque, puisque, en fait, il est organisé en Amérique du Sud depuis 2019, je crois. 2009, pardon, pas 2019.
À partir de 2009, effectivement. C'est pas tout à fait les mêmes Dakar, parce qu'on vit des époques maintenant différentes, et les choses sont différentes de toute façon. Mais ça reste des aventures vraiment à part. Et puis, moi, je pense qu'on peut toujours les comparer. C'est juste les époques qui changent. C'est juste ça.
Le profil du parcours, par contre, pour 2019, on ne le connaît pas encore.
Non, bizarrement, en fait, on n'a pas encore eu d'informations en fait sur le parcours, déjà même général, mais ça ne saurait tarder.
Alors, il y aura une certaine variété géographique, c'est ce qu'on imagine un peu entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, et vous me dites non, pas nécessairement, pourtant on franchit des cols, on l'a dit tout à l'heure, à 4500 mètres d'altitude.
Oui, alors effectivement, il y a l'altitude en plus en Amérique du Sud. Donc pour bien corser les choses, on va très haut. Au niveau humain, c'est assez compliqué parce qu'on monte en quelques heures du niveau de la mer jusqu'à ces 4000, 5000 mètres. Donc c'est difficile à gérer. Mais en fait, oui, il y a cette particularité-là sur l'Amérique du Sud.
On se dit que ce Dakar, parce qu'il est en Amérique du Sud, mais enfin, ça commence à être une vieille histoire, il a un peu perdu de son caractère, son symbole africain.
Oui, si on parle de symbole africain, effectivement, il l'a perdu. Même si on parle toujours de Dakar, parce que c'est un terme en fait au niveau de la course, en fait c'est son nom. Mais en fait, par rapport aux pilotes ou par rapport au rallye raid, ça change pas. Pas grand-chose, en fait, au niveau des difficultés ou par rapport à l'aspect sportif.
On traverse beaucoup de déserts en Amérique du Sud.
Principalement sur les côtes ou la côte ouest de l'Amérique du Sud, plus que, en fait, par rapport à l'Argentine, où on a plus de pistes, et puis, en fait, au Pérou, où on a des très beaux déserts, comme au Chili, effectivement. Donc, il y a vraiment de quoi faire là-bas. Donc, c'est la partie, je veux dire, plaisante pour les rallymans, c'est le hors-piste, c'est les dunes, c'est ce genre d'éléments-là.
C'est ce qui fait le charme, bien évidemment. Le sport motorisé, et surtout ces rallye raids, à un moment donné, ils étaient passablement décriés, ils avaient une mauvaise image. Ça vous dérange ?
Je ne sais pas si c'est peut-être par rapport du côté sécurité. Si c'est le côté sécurité, en fait, effectivement, en Afrique, il y avait eu quelques affaires, et puis bon, aussi des accidents. Mais c'était aussi ce qui se faisait à l'époque. Même pour les rallyes routiers, en fait, on voyait que la sécurité, c'était pas ça au niveau des spectateurs. Donc, c'était vraiment des... C'était décrié peut-être sur l'aspect sécurité. Après, sur l'aspect peut-être environnemental, en fait, je pense que on devrait peut-être faire une analyse un peu ce que coûte en bilan carbone, par exemple, un championnat du monde de football, vu qu'on y est bientôt. Et puis, on constatera en fait que le Dakar, c'est peanuts.
Alors, le bilan de carbone, on ne l'a pas sous les yeux, mais on l'a lu, effectivement, il y avait une comparaison intéressante, je ne sais pas si elle était véritablement exacte et justifiée, mais c'est vrai, si on compare le bilan carbone de Dakar ou de l'organisation d'une Coupe du Monde de football avec ce que ça génère comme déplacement de spectateurs, il n'y a pas photo, hein, la Coupe du Monde de football, au niveau du bilan carbone, c'est nettement moins enviable, mais néanmoins, quand même, on a le sentiment que ces sports motorisés, ils ont parfois mauvaise presse encore maintenant, même si c'est un peu amélioré, cette image-là, justement. Le Dakar, par exemple, qui a passé de l'Afrique en Amérique du Sud, où finalement les problèmes organisationnels ont été un petit peu tempérés.
C'est un domaine un peu particulier, un sujet d'ailleurs que je ne connais pas très très bien. Il faut savoir que les organisateurs font des interventions à côté du rallye. Donc AESO, qui est l'organisateur du Dakar, font des actions, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau humain, en fait, par rapport à la population. Donc on ne passe pas à dire bonjour, au revoir. Il se passe des choses, en fait, autour du rallye. Et puis c'est important.
Nicolas Monin, vous êtes prêt, vous êtes dans les starting blocks, la préparation a commencé.
Oui, j'ai déjà eu une grosse préparation par rapport au dernier rallye que j'ai pratiqué et qui s'est assez bien déroulé. Et puis là, physiquement, c'est déjà pas mal, mais il y a encore du boulot, un peu dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup de travail.
Nicolas Monin, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reparlera peut-être de votre projet quelques semaines avant encore. Et en attendant, bon vent, on va dire, dans les déserts sud-américains. Au revoir.
Merci, au revoir.
Cap Sport. On s'est peut-être un petit peu enflammé sur le Dakar. Bon, c'était très intéressant. On reparlera peut-être de Clint Capella et de sa saison exceptionnelle un peu plus tard dans une prochaine édition de Cap Sport. Mais Marcel, on peut parler quand même de basket parce que là, va commencer demain les demi-finales des playoffs avec notamment une équipe de l'Arc Jurassien qui s'est qualifiée. C'est Union Neuchâtel qui s'est qualifié face à Massagno en 4 matchs, 3-1 dans la série, mais là, Fribourg, ça va être une autre dimension quand même.
Oui, Fribourg, ça va être une autre dimension. Vous avez tout à fait raison, Yannick, et pour cause. La série se dispute aussi là au meilleur des 5 matchs, donc 3 victoires pour passer le cap. Fribourg, c'est tout simplement la meilleure formation de la saison régulière, et lorsque l'on dit régulière, c'est que réellement, cette équipe s'est montrée tout au long de la saison constante, à l'inverse d'Union Neuchâtel. Tout le monde s'accorde à dire que cette équipe unioniste a du potentiel, mais finalement, ce potentiel, elle ne l'aura exprimé que sur la fin de sa série.
Au meilleur moment.
Au meilleur moment, ça c'est vrai. Ouais. Au meilleur moment. Alors,
faut vous être en forme en play-off.
Juste, faut être en forme en play-off. Ben, il suffit de regarder ce qui se passe en hockey sur glace. Hein. Par exemple, où le ZSC Lions a terminé 7e de la saison régulière, a été sacré champion. En basketball, c'est un tout petit peu différent. Quoique, on peut s'attendre quand même à ce que la formation unioniste pose quelques problèmes à Fribourg Olympique, et ceci pour plusieurs raisons.
Le principe, on le rappelle, hein, c'est deux matchs à Fribourg, deux matchs à Neuchâtel et le cinquième acte décisif peut-être à Fribourg. C'est peut-être un avantage pour Union d'y aller sans pression et peut-être de ramener une victoire lors de l'un de ces deux premiers matchs.
Oui, c'est ce que nous ont dit les joueurs. On n'a absolument rien à perdre. Les deux premiers matchs à Fribourg, à savoir samedi et mardi. Et on le rappelle, le premier match à Neuchâtel, ça sera pour vendredi prochain sur le coup de 19h30. Bien évidemment qu'on y sera également, qu'on va suivre tous ces matchs en direct sur RTN.
C'est le moment pour nous de conclure ce Cap Sport. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tout ça en ligne, évidemment, sur la page de l'émission. Et puis, on vous souhaite une très belle semaine.
Cap Sport, la rediff.